Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Je m'appelle Yann et puis je fais aussi partie des leaders de Home. Et si je dis ça, c'est qu'on est là pour vous servir. En tant que leader, notre cœur, c'est de vous servir. Et avec Coralie, on va plutôt au culte du soir depuis 3 ans maintenant, qu'on appelle Home, notre église. Et au moins l'avantage, je me dis, quand tu fais le culte le matin, en tant que MC ou en tant que celui qui apporte la parole de Dieu, au moins je vous vois, parce que le soir, normalement, on ne voit presque rien dans la salle, donc c'est très agréable, je vais pouvoir vous voir tout au long de mon message de ce matin. Yves m'a approché au début de l'année, puis il m'a dit « j'aimerais bien que tu prêches cette année ». Et du coup, j'ai eu presque 9 mois pour me préparer, donc je suis prêt. Et c'est une joie pour moi d'être là ce matin pour partager le message qui va clôturer le thème de la série qu'on est en train de traverser, qui s'appelle donc « Money, Money, Money ». C'est une série qui nous accompagne depuis presque un mois, puis ce matin on va la clôturer et je vais parler d'un cœur généreux. Et c'est cool parce que d'un côté je me dis j'ai un peu moins la pression, c'est le dernier message, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été partagées jusqu'à maintenant. Je pense à Jean-Luc qui est venu, il y a Pierre qui est venu nous partager un message il y a 2-3 semaines, il y a eu le premier message avec Jonas, il y a eu Yves la semaine passée. C'était vraiment des messages incroyables qui m'ont interpellé, qui m'ont travaillé. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais moi, je me suis vraiment laissé interpeller par ces messages. J'ai été encouragé. Et je pense que c'est super important qu'on parle de l'argent à l'église. Et malheureusement, je suis aussi allé dans des églises où soit on parle trop d'argent, ou alors on parle mal de l'argent, ça blesse les gens. Ça peut faire beaucoup de dégâts aussi. Et ce n'est pas du tout notre cœur, en parlant d'argent, d'un moment donné, de vous solliciter. Moi, je ne vais pas vous solliciter ce matin. On parle d'argent parce que la Bible parle d'argent. On parle d'argent parce que Jésus a parlé d'argent. Yves l'a dit la semaine passée, il y a plus de 2000 versets dans la Bible qui parlent d'argent. 25% des messages de Jésus parlaient d'argent. Donc ça veut dire qu'on doit parler d'argent. Il faut qu'on parle de... Mais il faut qu'on en parle bien avec la bonne théologie. Et donc ce matin, surtout, ce que je souhaite vous apporter, c'est peut-être une vision différente, quelque chose qui contraste avec ce que le monde dit. Et donc j'ai axé ma prêche ce matin autour de 6 principes. Alors peut-être ça vous fait un peu peur, 6. Normalement, je crois que c'est plutôt 3 pour faire un message, c'est en 3 points, mais j'ai fait en 6 points, mais... On sera quand même dans le temps des 40 minutes, donc ne vous faites pas de soucis. Et puis si c'est la première fois que vous n'avez pas eu l'occasion de venir faire cette série auparavant, ben, j'aimerais vous dire, ne soyez pas crispés. Le but, comme je le disais, c'est on est là parce qu'il faut qu'on ressemble à l'image de Dieu et de son Fils dans notre gestion des finances, dans notre cœur. Et donc voilà, ce n'est pas du tout un message pour vous solliciter ou quoi que ce soit, donc gardez un cœur ouvert. Et je vais commencer avec le premier principe, et le premier principe de mon message ce matin, c'est ce que Dieu dit qui compte. Ça, c'est fondamental. J'aime bien cette phrase qui dit que plus les choses autour de nous changent, plus nous devons baser notre vie sur des choses qui ne changent pas. Et les choses ont tellement changé autour de nous ces dernières années. On a tous été ballottés d'un côté et de l'autre par des énormes changements de société. Et il se passe beaucoup de choses et il va continuer encore. C'est le changement est quelque chose de certain. Il va continuer d'y avoir des changements. Et des changements qui ne seront pas toujours en faveur de nous, en faveur de notre vie chrétienne. Et alors que les choses autour de nous changent, il y a une chose qui est très importante. Pour nous, en tant que chrétiens, c'est qu'on se base sur des choses qui ne changent pas. Et ce qui ne change pas, c'est Dieu. Et ce qui ne change pas, c'est sa parole. Et on doit s'appuyer sur ces choses qui ne changent pas. Et plus la culture qui nous environne nous éloigne justement des principes judéo-chrétiens, des principes bibliques, de la parole de Dieu, bah plus on doit apprendre à tenir ferme dans nos principes. Et je crois que les temps qui sont devant nous sont des temps qui vont de plus en plus nous défier par rapport au fait de tenir ferme à nos principes. Et jamais la société occidentale qui nous environne, elle a été autant, partisane du succès, de la richesse, de ce qui est beau, de ce qui brille, de ce qui a du succès. C'est tout ce qu'on célèbre. On célèbre énormément la richesse, le succès. Et c'est un truc qui me frappe aujourd'hui, la seule définition universelle, et pas qu'en Occident, de la réussite, c'est la réussite financière. C'est vraiment une des seules choses qui guide le succès dans notre société. Et puis si tu fais ça, tu es presque sûr, à mon avis, de te planter, parce que ce n'est pas la bonne vision dans la vie. Si tu pars en tant que chrétien avec cette vision-là, tu vas te planter. Ce n'est pas le projet de Dieu pour nous. Et combien de vies ont été ruinées par l'argent ? Je veux dire, pas vraiment par l'argent, mais par la poursuite, par l'attachement à l'argent, par l'amour de l'argent. Et la richesse qui a été mal gérée. Ou une richesse qui a été acquise trop rapidement, parce qu'il y a un peu les deux écoles. Et aujourd'hui, c'est très fort. Soit le but, c'est de te faire le plus de cash possible, de devenir le plus riche le plus vite possible. Tu vois, toutes ces vidéos sur YouTube, Instagram, c'est vraiment ce que notre société cherche, en tout cas en Occident, je trouve. Ou alors, c'est « play it safe ». Tu mets comme un max de cash de côté pour ta retraite. Et je ne dis pas qu'il y a quoi que ce soit de mal à ça, mais c'est vraiment la culture qui nous environne à laquelle on doit faire face. Et dans 2 Timothée 3, verset 1, qui sera affiché juste en dessus, « Mais notez bien ceci, il y aura des temps terribles dans les derniers jours, les gens seront amoureux d'eux-mêmes, amateurs d'argent, vantards, orgueilleux, injurieux, désobéissants à leurs parents. » Bon, la liste continue, on ne va pas toute la faire. Et qu'importe, j'ai envie de te dire, si on est dans les derniers jours ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est beaucoup plus proche aujourd'hui de ce que Paul, quand il écrit à Timothée, parle des derniers jours que notre génération. Et au contraire de ce que justement on pourrait penser, c'est que l'argent n'a rien de mauvais en soi. On en a tous besoin, c'est extrêmement utile. Et au contraire, on va en parler pendant cette prêche ce matin. Mais ce qui, encore une fois, est un souci, et l'épître de Paul à Timothée, donc 1 Timothée 6, verset 10, qui se réaffiche en haut, ça, il l'écrit juste avant celui que je viens de vous dire. Il dit, oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Donc, il y a un sacré avertissement, que si c'est ce que vraiment tu recherches de tout ton cœur, si ta vision, c'est ça, tu vas te planter. Alors, évidemment... si t'es pas chrétien, peut-être que ce que je dis, ça fait pas de sens pour toi. Et si t'as envie de lire un tout petit peu plus sur les richesses et ce que Dieu dit par rapport à ça, je t'encourage de lire dans Timothée, parce qu'il en parle, enfin, dans l'épître de Paul au Timothée, parce que c'est pas Timothée qui écrit, c'est Paul qui écrit à Timothée. Il y a beaucoup de bonnes choses. Et maintenant, je vais te dire une autre chose qui contraste avec ce que le monde dit. Et ça, si tu prends des notes, c'est le moment de sortir ton carnet. Ce qui compte, c'est pas combien tu gagnes. Ce qui compte, c'est la faveur de Dieu sur ta vie. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des choses que l'argent ne peut pas remplacer. L'argent, c'est pas une source sûre et garantie. Pourtant, elle cherche toujours et encore à remplacer Dieu, à t'apporter. Elle cherche à t'apporter quelque chose qui a trait de la sécurité, de ce en quoi tu mets ta confiance. C'est une idole. C'est quelque chose qui vient challenger tout le temps ce que Dieu dit, parce qu'il n'y a que véritablement Dieu qui peut te combler, qui peut te donner ce que ton cœur désire. Et si tu es dans la volonté de Dieu, ben, c'est véritablement ça qui va te combler. Et c'est cette faveur de Dieu sur ta vie que tu dois chercher. Et la culture, je le disais avant, donc, elle s'oppose pratiquement à tous les enseignements de Jésus et à ce que nous dit la Bible. et je veux contraster quelques-uns de ces éléments. La société te dit, la richesse et le succès financier t'apportent le bonheur et la sécurité. Vous êtes bien silencieux. Mais la Bible, elle te dit, ta véritable joie dépend de ta relation avec Jésus. La société dit, tout est à toi, tu es seul maître de ce que tu possèdes. Et venez surtout pas me dire de donner ce que j'ai, c'est à moi. Mais la Bible te dit, si tu es riche, tu devrais être généreux et partager. Le partage aussi, on n'en parle pas souvent, mais le partage, c'est vraiment une composante essentielle de notre vie de chrétien. La société te dit, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Mais la Bible, elle te dit, dans Actes 20, 35, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et la société te dit, enrichis-toi le plus vite possible, je le disais avant, pour travailler le moins possible, pour prendre ta retraite le plus vite possible. Donc on tombe dans la frugalité. Ou alors elle te dit, dépense tout ce que tu gagnes, tout, et si tu ne peux pas te le permettre, endette-toi, prends-le aujourd'hui, achète, paye-le demain. Mais Dieu est le propriétaire de tout ce que nous possédons. Puis j'avais bien aimé l'exemple que Pierre il avait donné il y a 2 semaines pendant son message, où il disait, il racontait le travail qu'il faisait avec la mission en Inde, puis qu'à un moment donné, il y avait des gens qui avaient perdu leur maison, et puis en fait, ils interviewaient le pasteur qui avait perdu sa maison, puis ils disaient, mais en fait, c'est pas grave, parce qu'en fait, c'était la maison de Dieu. Donc si la maison n'est plus là, Dieu m'ordonnera une maison. Parce qu'en fait, il avait déjà décidé dans son cœur que ce qui lui appartenait d'abord à Dieu. Dieu est le propriétaire de tout ce que nous possédons, puis nous sommes ses gestionnaires. Il nous confie ses biens. Puis la Bible te dit, en contraste avec le verset d'avant, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Alors, rien de tout ça, c'est un acquis. Ça veut dire que c'est un peu comme le salut. Puis j'imagine que c'est seulement moi, c'est pas vous. Mais avec l'argent, c'est la même chose. En tant que chrétien, il faut qu'on arrive à vaincre la pensée prévalente de notre culture, parce qu'elle est non seulement omniprésente, mais elle nous influence dans tout. Donc là, on traverse une série sur l'argent, mais je peux vous dire que vous allez être mis au défi ces prochaines semaines par rapport à tout ce que vous avez reçu ici. À un moment donné, vous allez devoir redécider encore et encore qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez donner, quel est votre état d'esprit par rapport à l'argent. C'est quelque chose qui va revenir. Et encore dans notre vie de chrétien, on a besoin de reprendre des décisions, de réaffirmer des choses en rapport avec notre gestion à l'argent, pour qu'on continue de rester généreux. Parce que tout nous pousse autour de nous, au contraire. Et là encore, j'ai envie de vous dire, c'est pas tellement dans mes notes, mais on va vers des temps, peut-être difficiles, on ne sait pas, mais ça sera de plus en plus difficile de rester fidèle à nos principes et de continuer de rester généreux. Mais je crois que c'est aussi quelque chose qui va continuer de nous démarquer du reste des gens qui sont autour de nous. Et le deuxième principe, donc c'est ce qui compte, c'est ton état d'esprit. Donc la chose la plus importante, c'est ce que Dieu dit, puis ensuite c'est ton état d'esprit. Et vous connaissez cette phrase peut-être qui pique un peu, mais les seules personnes qui pensent que l'argent n'a aucune importance sont ceux qui n'en ont pas. Aïe. Et puis on vient à penser que d'être pauvre, c'est une vertu, ou alors que d'être riche, c'est une vertu. Pas du tout. C'est pas parce que tu es pauvre que tu es bon. C'est pas parce que tu es riche que tu es bon. Mais c'est pas du tout la pensée prévalente de notre culture. Cela n'a rien à voir. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient égoïstes, individualistes, qui n'avaient rien. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient extrêmement généreux, qui avaient beaucoup. Et inversement. Ça a à voir, si tu es égoïste et individualiste et corrompu, ou ça a à voir avec le fait que tu es égoïste et individualiste et corrompu. Pas, c'est une question de cœur, c'est pas une question d'argent. Mais l'argent vient refléter l'état de ton cœur. Ton état d'esprit, il est révélé par rapport à l'argent. Donc c'est comme si tu viens mettre une loupe. Et tu sais ce que font les Juifs? J'ai écouté un rabbin alors que je préparais cette prêche, et j'ai écouté un rabbin orthodoxe que je trouvais vraiment passionnant. Puis il me disait, pas à moi, mais sur sa vidéo YouTube, tu sais ce que font les Juifs quand ils ont besoin d'argent? Ils cherchent quelqu'un à servir. c'est la même chose que de chercher un travail, mais l'état d'esprit qui est derrière, il est différent. Donc si tu as besoin d'argent, il faut que tu cherches quelqu'un à servir. Il faut que tu cherches une opportunité de servir. Si dans 100% de tes interviews, quand tu postules pour des jobs, ton état d'esprit, c'est comment est-ce que je peux rajouter de la valeur à cette société ? Comment est-ce que je peux solutionner des problèmes pour leurs employés ? Qu'est-ce que je pourrais apporter comme solution concrète, innovante, créative pour que cette société, en fait, elle prospère ? Et puis que tout ce que tu es, en fait, il est redirigé vers ce que tu peux faire pour l'autre, pour cette société en l'occurrence. Il y a beaucoup plus de chances que tu te fasses embaucher par cette boîte que si tes seuls arguments, c'est essayer de les convaincre de t'engager. Donc si tu as besoin d'argent, tu as besoin d'une opportunité de servir. Et puis peut-être que tu penses que ça c'est individuel, mais c'est la même chose avec une entreprise. Le jour où une entreprise, et je l'ai vu, et on en entend parler, où une entreprise arrête d'être dans cet état d'esprit de servir l'autre, servir ses employés, servir ses clients, et puis met d'abord l'argent avant de servir les gens, bah non seulement ça fait des monstres dégâts, mais la société, elle s'effondre tôt ou tard. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. À un moment donné, il y a des sociétés comme Dell, enfin plein d'autres, plein de grosses multinationales, ils avaient une vision de départ qui était de servir le plus de gens possible, et puis de pouvoir solutionner, d'apporter concrètement quelque chose à leurs clients. Puis le jour où ils ont vu qu'à un moment donné, un jour, il y a un basculement parce que les actionnaires, les gens qui pilotent la société, ils se disent, mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire le plus d'argent possible ? Et puis à partir de là, la vision change et puis ça commence à déraper à partir de là. Et si tu es patron, puis que tu as le choix entre engager justement deux personnes, puis tu as une personne qui est égoïste, puis l'autre elle est généreuse, il y a beaucoup plus de chances pour que ça soit la personne qui soit généreuse, qui soit engagée. Donc si ce matin tu cherches un job, priez pour avoir l'opportunité de servir quelqu'un. Ce que Dieu dit est le plus important, et ensuite c'est ton état d'esprit qui est très important. Et le troisième principe, choisissez toujours de donner plutôt que de prendre. Et là, je suis obligé de parler de ça. Mais on ne donne pas pour recevoir en retour. Et je ne sais pas si ça s'apparente à la théologie de la prospérité, mais j'ai entendu tellement de discours, j'ai lu des bouquins par rapport à ça. Tu donnes ton vélo, tu reçois une voiture, tu donnes ta voiture, tu reçois une maison, tu donnes ta maison, tu reçois un jet, tu donnes ton jet. Bon, je ne sais pas ce que tu peux recevoir après. Mais cette idée, et même si ce point, il est... Je pense qu'il y a une réalité quand même là derrière. Mais la générosité, ce n'est pas un schéma de Ponzi non plus. Et ce n'est pas le cœur derrière le fait d'être généreux. Et puis pour m'appuyer sur ce que Yves disait la semaine passée, on donne parce qu'en fait, on a envie de refléter Dieu. C'est ça avant tout. On donne parce qu'on a confiance en lui, que lui va pourvoir aussi à nos besoins. Et j'aimerais vous partager deux petits témoignages. On est parti en Californie cet été avec Coralie. On a passé des super vacances. Cher, plus cher qu'en Suisse. La Californie, les États-Unis sont devenus vraiment chers depuis le Covid. Mais par contre, il y a une des trucs qui m'a frappé dans cette notion que c'est plus important d'avoir un état d'esprit où il faut toujours donner plutôt que de prendre, c'est que les Américains, ça m'a fait du bien. Pourtant, j'ai grandi une partie de ma vie aux États-Unis. Mais j'avais oublié à quel point ça faisait du bien de voir tous ces gens qui s'intéressent continuellement à toi, qui discutent dans la rue, qui s'intéressent à toi dans les magasins, qui te posent des questions. Tu viens d'où? Vous faites quoi? Mais c'est génial, etc. Et ça fait tellement du bien. Tu sens que les gens, en fait, ils prennent le temps pour toi. Et prendre le temps pour les autres, c'est vraiment une marque d'amour. Ça veut dire, en fait, que tu reconnais l'autre, tu vois l'autre. Et puis, on a décidé, en rentrant des États-Unis, que, en fait, on allait garder cet état d'esprit où, en fait, on voulait prendre le temps de s'arrêter. On voulait prendre le temps de garder un cœur bon et ouvert. La moitié des gens qui viennent t'arrêter à Lausanne, c'est plutôt pour prendre plutôt que te donner. Puis une fois sur deux, ils sont chelous, quoi. Et moi, je me suis dit, bah, c'est quelque chose qu'il faut qu'on change, notre ouverture à l'autre. Puis la deuxième chose que j'ai envie de vous parler, c'est que à un moment donné, j'étais toujours dans ce voyage à San Francisco. En Californie, donc on a fait 3 jours à San Francisco, puis on était dans un hôtel, et c'était marrant parce que le gars qui était à l'accueil, il ressemblait, c'était pas la personne qui nous avait accueillis, mais il ressemblait à Snoop Dogg, et j'aime pas Snoop Dogg. Donc, en fait, et c'est marrant parce qu'en fait, Dieu précisément a utilisé cette personne pour me parler. En fait, à un moment donné, j'ai engagé une conversation de presque 40 minutes avec ce gars dans le lobby de l'hôtel, qui travaillait à l'hôtel, et en fait, ce gars était un chrétien convaincu, engagé, et le gars m'a exhorté pendant 45 minutes. Et j'avais mon cœur ouvert et j'ai écouté ce qu'il avait à me dire. Et c'était magnifique. Et en fait, il m'a dit, bah, tu vois, on est tellement obsédé en Occident avec notre course contre la montre et c'est cette fameuse course du hamster. Et c'est à propos de combien tu gagnes, de finir avant les autres, de finir premier, d'être vu, d'être reconnu, d'être adulé. Puis il me dit, mais tu vois, en plus, en tant que chrétien, le pire, c'est que souvent, on essaie de faire la même chose, où on joue sur les deux tableaux, puis ça ne marche pas, on sait, marche. Puis il m'a dit, mais tu vois, en tant que chrétien, nous, notre rôle et notre mission, ce n'est pas de finir les premiers, c'est de faire en sorte qu'un maximum de gens franchissent la ligne d'arrivée. Ça, c'est notre mission. Et pas de courir la course seule et de façon égoïste. Et puis, ce n'est pas du tout ce que Dieu nous demande. Donc, notre but, c'est de vivre généreusement. Dieu ne nous a pas créés pour prendre, mais Dieu nous a créés pour donner. J'écoutais je travaille dans ce qu'on pourrait dire la philanthropie pour une organisation internationale. Donc toutes ces questions-là, c'est des questions auxquelles je réfléchis souvent, je m'intéresse. Et puis j'écoutais une neuroscientifique qui travaille au MIT, qui s'appelle Sarah Swart. Puis elle nous dit les avantages incroyables du don. Puis c'était dans une vidéo qu'elle faisait en collaboration avec une banque anglaise sur le domaine de la philanthropie. La philanthropie, c'est un grand mot qui veut simplement dire l'amour de l'humanité, le fait de prendre soin des autres. Puis elle disait, les avantages incroyables du don, c'est que, et je crois que Yves en parlait la semaine passée, vous savez que donner augmente votre niveau de résilience. Donner augmente votre système immunitaire. Cela te permet d'être en meilleure santé plus tard dans la vie. C'est dingue. Donner stimule littéralement ton cerveau. Ça booste ce qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone qui est responsable pour l'hormone de l'humeur. Ça booste l'oxytocine, c'est l'hormone relationnelle qui joue un rôle essentiel dans les liens sociaux. Et tout ça se produit lorsque tu engages dans un type de pensée empathique qui est lié avec le don. C'est incroyable. Quatrième principe, la générosité n'est pas que financière. Être radicalement généreux va beaucoup plus loin que l'argent. Il y a le don de soi. Et ma première question pour vous ce matin, c'est qu'est-ce que tu donnes aux autres de ta personne ? Parce qu'il y a l'amour, il y a la bonté, il y a ton temps, il y a ta connaissance. Et peut-être quand je dis ça, il y a des personnes qui te viennent en tête, autant des gens qui ne le sont pas du tout, parce qu'ils gardent tout pour eux, autant des gens qui te viennent en tête, peut-être des professeurs, des mentors, des gens de ta famille, des professeurs, des amis, des gens qui te viennent en tête parce qu'en fait, ils sont super généreux, et je ne parle pas que d'argent, ils sont super généreux, dans leur style de vie et qui contraste avec le monde qui nous entoure. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui donnent et qui ne prennent pas. Et moi, j'avais un ami comme ça. C'était un gars tellement passionné par la vie. Il était passionné par sa relation avec Dieu, avec les gens autour de lui. Il donnait de son temps pour son groupe de jeunes, il le donnait encore pour d'autres organisations. Il avait une passion du skateboard, il la partageait via des vidéos. Il avait aussi une sensibilité et une empathie énorme pour les gens dans le besoin, les SDF, les sans-abri. Et il vivait avec pas grand-chose. Tout ce qu'il avait, soit il le donnait, soit il le partageait. Et moi, j'étais béni par une amitié comme ça. Il faisait des choses auxquelles les gens ne s'attendaient pas, tout le temps. Et à un moment donné, tu sais, c'est le gars qui, chaque fois qu'il voyageait quelque part, il m'envoyait une carte postale. C'est comme si moi, je vais à Zurich ou à Berne, puis j'envoie une carte postale à Coralie ou à Yves pour dire « Hey !» Il écrivait en anglais, en l'occurrence, c'était un ami américain. Spending the day in Zurich, so good to you know, wish you'd be here, I miss you tons. Je me réjouis de te revoir. Et puis il envoyait des cartes tout le temps. Qui envoie encore des cartes aujourd'hui? À part Coralie, de temps en temps, à sa grand-maman. Il faisait des choses auxquelles les gens ne s'attendaient pas. Et c'est un gars qui a laissé une empreinte autour de lui, mais juste hallucinante. Parce qu'il avait le bon état d'esprit, il avait le cœur au bon endroit. Et malheureusement, ce gars, à un moment donné, il a tragiquement mort dans un accident de voiture. C'était mon meilleur ami, il s'appelait Jesse Ruggles. Il est mort dans un accident de voiture au mois de mars l'année passée. Ben, je peux vous dire que quand des gens comme ça partent, ça laisse un vide, un énorme vide. Parce que le gars, il avait compris. Il avait compris que ce n'était pas à propos de lui. C'était à propos des gens qui étaient autour de lui. C'était à propos de refléter Dieu. Trouvez des Jesse dans votre vie. Mon cinquième point, la générosité crée la richesse. Et si vous prenez des notes, rappelez-vous que justement, on ne donne pas pour recevoir. Même si ce point, il est vrai, le but, ce n'est pas de nous enrichir au travers du don. Et je vais prendre cet exemple avec la générosité. Si tu prends deux personnes qui, avec une situation, on va dire, égale, l'une d'entre elles décide de prendre, c'est-à-dire de tout garder pour elle, et puis l'autre personne décide de donner. Qu'est-ce qui se passe financièrement? Tu t'en sors beaucoup mieux si tu gardes que si tu donnes. En tout cas, au début. C'est mathématique. Tu compares le budget de ces deux personnes après quelques mois, semaines, peut-être une année ou deux. La situation de la personne qui garde, elle sera meilleure d'un point de vue financier que la personne qui décide de donner. Mais continue sur le trend. À un moment donné, les courbes, elles s'inversent. C'est la personne qui donne qui va prospérer. Quand tu donnes, tu as une espèce de... Tu as une tendance naturelle à prospérer plus que les autres. Donc, attends 10 ou 15 ans. Tu prends les mêmes personnes que je viens de citer en exemple. La situation, elle sera bien différente. Qui se portera mieux? La personne qui prend ou la personne qui garde? Les personnes généreuses ont beaucoup plus tendance à prospérer que les autres. Parce que lorsque vous donnez de votre personne et que vous le dites aussi et vous le confirmez avec votre argent, je parlais de Jesse tout à l'heure, à un moment donné, il a décidé de venir depuis les États-Unis jusqu'en Suisse. En général, les gens qui font ça, pour les Américains, c'est quand même plutôt des gens qui ont les moyens. Lui, il n'en avait pas. Il a utilisé les derniers sous qui lui restaient pour prendre son billet d'avion pour venir nous voir pour notre mariage. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe de ce qu'il nous avait donné, c'était la personne la plus généreuse de tout le mariage. Et le gars vivait dans un bus et se douchait dans un fitness. Quand tu donnes, ça ne change pas les gens, mais ça change vous. Il est très difficile de trouver quelqu'un qui donne régulièrement, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et puis que ce soit des gens qui stagnent dans leurs relations, dans leur vie professionnelle, dans leur mariage. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous devenez moins égoïste quand vous donnez. Ça réforme votre cœur. Les personnes généreuses sont globalement de meilleures personnes, de meilleurs parents, de meilleurs employés. Vous avez une tendance très pratique à prospérer. Et la générosité, c'est super attractif. Moi, j'ai un client qui m'a appelé il y a 3 mois, en numéro masqué. Je n'avais pas envie de décrocher. Je n'aime pas décrocher quand je ne connais pas la personne qui m'appelle. Mais j'ai décidé de décrocher. Et en fait, c'est un client suisse qui vit aux États-Unis. Et on a une conversation avec lui. Et en fait, il me dit, j'aimerais vous donner. Je dis, OK. J'aimerais vous donner une partie de mon entreprise que j'aimerais vendre. Je dis, bon, d'accord, OK. Et donc, je poursuis la conversation avec lui. Je dis, mais moi, pour savoir comment je peux vous aiguiller, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que je puisse recevoir une partie de ces sociétés, il faut que je sache de combien on parle. Il me dit, j'aimerais vous donner 1,5 million. Allô ? 1,5 million. Parce que le gars a décidé de vendre sa société pour un montant d'à peu près 10 millions. Et l'entièreté de la vente de la société allait à des œuvres chrétiennes ou non chrétiennes, je ne sais pas. Il ne m'a pas dit où allait le reste de l'argent, mais il était donné. Moi, je trouve ça super attractif. Moi, j'aurais eu envie de poursuivre le téléphone avec lui, de dire, mais comment t'en es arrivé là ? Et à un moment donné, c'est ce que Yves nous disait la semaine passée. Pour arriver à prendre une décision comme ça, de dire à un moment donné, je vais donner une voiture, une maison, une entreprise, c'est des choses que tu dois décider très tôt dans ta vie, sinon tu ne les fais jamais. Mais moi, je trouve que c'est super attractif. J'ai beaucoup plus envie de ressembler à quelqu'un comme ça, qui a cette générosité telle que ce client-là, plutôt que les gens qui décident de tout garder pour eux-mêmes. Ça a beaucoup plus d'impact. Donc choisissez de vivre et de donner généreusement avec des amis dans le besoin, des missionnaires, des gens que vous connaissez qui sont dans le besoin, ou un parrainage d'enfants, Love Lausanne. Il y a tellement d'opportunités de donner. Puis de donner de votre personne, donner de votre temps, donner de vos talents, dans les relations que vous avez les uns avec les autres. Et puis l'argent, c'est quelque part comme quelque chose qui vient cimenter le tout. Puis ça vient confirmer. Et Sarah Swart, que je mentionnais tout à l'heure, elle dit, dans un monde où nous nous efforçons d'être plus intelligents, plus forts, plus performants, j'en parlais au début, on passe à côté d'une partie essentielle en ne considérant pas le don caritatif comme une pièce essentielle du puzzle. Mais c'est tellement vrai. Et mon 6e point, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça ne porte pas du fruit. Vous vous souvenez de l'exemple avec les deux courbes ? Juste avant, à un moment donné, la générosité, ça semble ne pas porter de fruit. Mais Dieu est plus intéressé par ton cœur que par ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Et dans cette série, on n'est pas tellement en train de vous donner des conseils pour être riche. Mais on veut que vous ressembliez davantage à Dieu. Que vous laissiez votre cœur être travaillé par lui. Les conséquences d'une vie bien vécue, selon les principes bibliques ou celles du monde, ne se font pas ressentir immédiatement, mais avec le temps. Et je vais illustrer ça encore avec un exemple. Prenons l'exemple d'une voiture et l'exemple d'une centrale nucléaire. Tu rentres dans ta voiture, tu appuies sur l'embrayage, tu t'asseyes, tu tournes la clé, ta voiture démarre. Tu as une évidence physique immédiate de la conséquence de tes actions. Par contre, si tu prends une centrale nucléaire, déjà, ça veut dire qu'elle est à l'arrêt, comme la plupart en France actuellement. Non, plaisanterie à part, mais c'est vrai. Quand tu vas vouloir redémarrer ta centrale nucléaire, déjà, il faut que tu appelles l'ingénieur en chef. Il faut que tu lui demandes des informations. Il faut que tu accèdes à la salle des commandes. Tu trouves la salle des commandes. Et à un moment donné, donc, tu vas devoir lire le manuel. Tu as l'ingénieur au téléphone, tu lui poses des questions, il t'explique, ça va prendre du temps pour que tu comprennes ce qu'il faut faire. Ensuite, tu vas actionner, tu vas appuyer sur des boutons. Tu vas mettre en place le redémarrage de la centrale. Ça va prendre du temps. Et une fois que tu as fait ça, pendant la première heure, c'est véridique, je me suis renseigné. Pendant la première heure, tu n'as aucune évidence physique, auditive, visuelle du succès de l'opération. Tu vois peut-être quelques aiguilles bouger, ça s'arrête là. Il ne se produit toujours pas d'énergie, il n'y a rien. Maintenant, si je pousse cette allégorie encore un peu plus loin, je reprends ma Mini Cooper, je fais une erreur avec ma voiture. Il y a de fortes chances que l'erreur se transforme en un accident et que l'accident puisse être fatal. Par contre, tu fais une erreur avec ta centrale nucléaire, il faut que beaucoup de choses se passent mal en séquence jusqu'à ce que tu réalises qu'il y a un problème. Et il faut que beaucoup de choses encore se passent mal de façon importante jusqu'à ce que tu atteignes le désastre. La vie fonctionne beaucoup plus comme une centrale nucléaire que comme une voiture. Parfois, c'est la voiture. J'en ai parlé avant avec Jessie. Tu peux faire quelque chose de faux pendant 15 ans avant de réaliser que tu as pris les mauvaises décisions 15 ans plus tôt dans ta vie. Parce que tu as appuyé sur les mauvais boutons. Et souvent, on apprend les choses trop tard. Ou tant qu'on ne l'a pas vécu nous, on ne se laisse pas remettre en question. On vit comme si c'était une voiture, alors que c'est une centrale nucléaire. Et aujourd'hui, pour clôturer ce message, j'aimerais vous encourager à réorienter votre perspective, votre façon de voir la générosité sous toutes ses formes. Repensez le don. Et réorienter votre perspective à l'image de Dieu. Vous vous souvenez ce que Yves disait la semaine passée, c'était magnifique. Toute la Genèse, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues dans la traduction. Mais en fait, les premiers versets de Genèse, en fait, c'est Dieu donne. Dieu donne la végétation, Dieu donne les animaux, Dieu donne la terre, Dieu donne le soleil, Dieu donne la lumière. Dieu donne et Dieu donne. Dieu est dans le don. Notre Dieu est un donateur. Et toute l'histoire de la Genèse, c'est Dieu donne. Et le premier moment où en fait il y a un verbe prendre, c'est quand Adam et Ève décident de prendre du fruit défendu. C'est la première fois dans la Genèse où il est écrit prendre plutôt que donner. Et malheureusement, après, avec le peuple d'Israël, il n'a pas forcément compris. Et donc, qu'est-ce que fait Dieu ? Dieu renvoie. Dieu renvoie encore son fils. Je crois que j'ai manqué une slide. Mais Dieu redonne. Et Jésus-Christ redonne sa vie et il redonne sa mort. Et le gars, il a financé lui-même son ministère. Il n'a pas fait une campagne TikTok ou Instagram. Ce n'est pas les pharisiens non plus hein, qui l'ont aidé à financer son ministère. C'est lui, il a gagné dignement son argent toutes ces années où il a travaillé pour qu'ensuite il puisse finir sa vie en donnant tout ce qu'il avait, tout son savoir, toute sa connaissance, tout son temps. Et ce matin, je crois vraiment que j'ai oublié une slide. Mais j'aimerais quand même t'encourager à prendre des bonnes décisions et justement, comme je disais avant, réorienter ta vie. Et je m'adresse autant à des gens qui donnent fidèlement, il y a beaucoup de gens qui donnent ici fidèlement depuis des années, autant aux gens qui, peut-être, vous n'avez pas comme pratique de donner, en tout cas pas financièrement. C'est quelque chose que vous trouvez peut-être dépassé, plus d'actualité, je ne sais pas. Mais moi, j'ai traversé une crise. Je donne depuis que je suis jeune. Mes parents m'ont éduqué comme ça. c'est quelque chose qu'on m'a inculqué depuis jeune, d'apprendre à donner, d'apprendre à être fidèle, de donner sa dîme, etc. Puis j'étais super comme assez légaliste là-dedans. Toute mon adolescence, la période de 20 à 30, et à un moment donné, j'ai tout remis en question. Puis je me suis dit, mais c'est une folie cette histoire. Pourquoi est-ce que je donne ? J'avais perdu de vue la vision, j'avais perdu de vue le pourquoi, j'avais perdu de vue ce que Dieu dit, l'état d'esprit de pourquoi on donne. Le donner plutôt que prendre, j'avais perdu. Puis à un moment donné, ça m'a traversé, j'ai vécu une crise comme ça pendant une année et j'ai dû tout réapprendre la joie dans le don, réapprendre et réaligner ma perspective avec celle de Dieu. Et je me suis remis à donner de tout mon cœur. Et je donnais que ce que j'avais la joie de donner, mais je le faisais de tout mon cœur. Donc que tu donnes depuis longtemps puis que tu as peut-être l'impression que ça n'a pas apporté ses fruits, continue d'arroser encore et encore pour ressembler davantage à Dieu. Et puis si tu as fait les mauvais choix, c'est jamais trop tard avec Jésus. Il y a toujours de la grâce, il y a toujours de l'amour. C'est jamais le mauvais moment. Même si tu réalises que ça fait 15 ans que peut-être tu as pris les mauvaises décisions, ou c'est pas quelque chose que tu as voulu faire, il y a de la grâce, tu peux changer. T'appelles l'ingénieur en chef, tu l'appelles. Tu lui demandes comment faire, tu lui demandes de te guérir, tu lui demandes de t'aider. Et en conclusion, on a vu ensemble 6 principes pour conclure cette série sur l'argent. Puis j'espère que tu as pris des notes, parce que je ne vais pas les répéter. Mais sache que Jésus en a plus après ton cœur qu'après ton argent. Et que la façon dont tu gères ton argent reflète l'état de ton cœur. Et qu'en tant que disciple, on reflète avant tout et premièrement notre maître. Alors nous devons avoir des cœurs généreux.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.